Dieu vous bénisse. Nous lirons ce soir dans Genèse chapitre 28, juste un verset. Verset 17. Jacob, on peut lire verset 16, pardon. C'était verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Dans Ézéchiel 48, aussi un seul verset. Sa dernière partie du verset qui nous intéresse. 35. Circuit 18 000 cannes. On oublie ça. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, lisez cela au-dessus. Et dès ces jours, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel est ici, c'est Jéhovah Shammah. Là, c'est de là que tiré le nom Jéhovah Shammah. Et Frère Abraham dit ceci dans. Ce sera le titre. Hein. Ici, bon ce soir, dans. Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ce soir, tout le monde, j'espère que nous chercherons à tirer au clair ce seul point, il était sur le point de prier pour les malades ce jour-là, à savoir Dieu est ici. C'est le titre, Dieu est ici. Et quand vous aurez réalisé que Dieu est ici, réclamez votre guérison, réclamez vos besoins sur le champ. Et il faut que la foi s'ancre dans votre cœur et dire, Seigneur, me voici avec mon problème. Jacob a réalisé la présence de Dieu en un certain lieu où Dieu n'était pas nécessairement censé se trouver. Et vous, pouvez-vous le réaliser? Il a dit ceci dans Matthieu 18. Jésus-Christ a dit, verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est bon de réaliser qu'il est bien là, au milieu de nous. Ainsi, nos réunions ne seront jamais vaines. Elles seront bénies. Ça va? Elles seront bénies. Ah, des bénédictions qui découlent de sa présence. Et quand vous savez qu'il est là, eh ben, c'est le moment de lui parler. Ou c'est le moment de le toucher. Nous l'avons vu la semaine passée, il connaît nos problèmes. Il connaît nos douleurs, mais Dieu aime qu'on lui parle. On ne reste pas muet devant lui. Hein? Nous ne demandons pas des sensations. Nous demandons, comme dit le cantique, nous désirons le voir. Et le voir, pas avec ses yeux, mais le voir avec les yeux de la foi. Crois que cette parole est véritable, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Croire qu'il est réellement au milieu de nous. Et quand nous croyons qu'il est au milieu de nous, nous allons être révérencieux. Nous allons venir, sachant que Dieu est au milieu de nous, nous allons venir étant décemment habillés, avec le cœur prêt à lui parler, avec le cœur prêt à le voir. Et l'apôtre Pierre, nous dit, c'est un verset que nous lisons ces jours-ci tous les dimanches, dans 1 Pierre chapitre 2. Juste le verset 4. Approchez-vous de lui. Du temps de Jacob, l'endroit où Dieu se tenait était, Jacob dit, c'est un endroit redoutable. C'est redouter, c'est-à-dire qui fait peur, n'est-ce pas? Il dit ceci dans Genèse 28. Retenons cela. Au verset 17, il dit, il eut peur, il a eu peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mais aujourd'hui, alors que Christ est venu, alors que le voile a été déchiré, le voile qui nous séparait de sa présence, aujourd'hui, il nous dit, d'abord, Paul nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Alors que entrer dans le sanctuaire, et c'était redoutable dans le temps, aujourd'hui, l'entrée est libre. On a écrit « entrée libre ». Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Amen. Alors, conclusion, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Nous n'avons plus peur, comme Jacob a eu peur, mais la disposition de notre cœur doit être sincère. Ça va? Le cœur doit être sincère. Dans la plénitude de la foi, croyant réellement qu'il est ici, étant persuadé convaincus de sa présence. Les cœurs et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps, puisqu'on dit toujours « Dieu voit mon cœur », non, Dieu voit tout. Ça va ? Et le corps lavé d'une eau pure. Aussi, Pierre nous invite de nous approcher de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il nous demande de nous approcher de lui. Et Jérémie dit ceci, « Lorsque maintenant nous nous trouvons dans sa présence, c'est donc nous approcher de lui, étant donné qu'il est ici, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir dans sa présence, de nous approcher de lui, bien sentir qu'il est là, bien le voir qu'il est là. N'oubliez pas, il y a des choses que les vrais croyants voient, je vais enlever le mot vrai, que les croyants voient, parce que ceux qui ne sont pas croyants, ils ne sont pas croyants, mais que les incrédules ne voient pas. Comme vous vous souvenez de Géasi, hein, ou plutôt d'Élie et de son serviteur. Élie savait qu'il y avait plein de monde autour de lui, qu'il y avait des anges, qu'il avait une protection assurée, tandis que son serviteur ne voyait pas. Élie lui a dit, « N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. » Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'anges qui entourent les enfants de Dieu. Alors, Jérémie lui dit ceci, « Lorsque vous vous tenez dans sa présence, vous savez qu'il est là et que vous vous êtes approché, vous êtes désormais dans sa présence. » Tant que l'onction est là, le frère Abraham dit, au paragraphe 30, toujours la même, il dit, pour se tenir juste là, là où Dieu est, pendant que l'onction est là, alors les gens reçoivent leur bénédiction. Et s'en iront d'ici en se réjouissant. Pourquoi ? Pour avoir senti la présence de Dieu. Pour avoir vu la présence de Dieu. Jacob ne l'a pas vu de ses propres yeux, mais il a su, quelque chose lui a montré que Dieu était dans ce lieu. Pourquoi il y avait quelque chose de particulier dans ce lieu ? Et tout comme lorsque nous entrons dans une assemblée de frères et de sœurs, lorsqu'on les trouve en train de chanter, il y a quelque chose qui monte dans leur cantique. Il y a quelque chose qui monte dans leur attitude. Il y a une onction qui en ressort, qui nous fait ressentir que Dieu est là. On chante avec plus de ferveur. Et parfois même, on arrête de chanter pendant que les autres chantent. On commence à lui adresser des prières parce qu'on sait qu'il est là. Et ces prières-là arrivent, aboutissent certainement. Dans Lamentations, chapitre 2, souvent l'habitude de lire chapitre 3, maintenant, si nous avons des problèmes, si nous sommes accablés par des soucis, des douleurs, des souffrances, de votre cœur, criez vers Dieu. Ici, les enfants d'Israël avaient désobéi, Dieu les a conduits en exil. Et Jérémie, dans ses lamentations, voyant la condition du peuple, il dit... Au verset 17, chapitre 2, l'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Non, quand vous avez tout ça, il dit, leur cœur crie vers le Seigneur. Vous priez pour cela. Lorsque vous avez eu tous ces malheurs, vous priez, vous criez vers Dieu. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun répit, ne te fatigue pas. Alors, verset 19, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Alors il dit, répand ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Ça va? Tant que vous êtes dans le besoin et que vous savez que Dieu est là, que ça soit votre faute ou pas, que ça soit un châtiment ou que ça soit une épreuve, répandez vos cœurs comme de l'eau en présence du Seigneur. Ne le faites pas en présence du mur, le mur ne peut rien pour vous. Ne faites pas en présence d'un frère, le frère ne peut rien pour vous. Mais faites-le en présence du Seigneur. Répandez votre cœur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. En tout cas, pour tous vos problèmes, levez vos mains. Dieu est là et Dieu verra vos mains levées. Alors, ainsi, toutes les bénédictions promises sont pour vous. Hein? Nous en avons dans le psaume 133, c'est ces bénédictions. Cantique des degrés de David. Les degrés, ce sont les marches qui leur permettaient d'arriver au parvis, dans le temple. Cantique des degrés de David. Donc, pendant que vous montez vers le parvis, pendant que vous vous approchez du Seigneur, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. David a expérimenté ça, que les assemblées n'étaient pas des choses vaines, elles avaient leur importance. Et nous de même, nous devons savoir que ça a leur importance, les assemblées. Lorsqu'on a besoin de réconfort, n'abandonnons pas l'assemblée. Lorsqu'on a besoin d'aide, n'abandonnons pas l'assemblée. Lorsqu'on a besoin de l'intervention divine, n'abandonnons pas l'Assemblée. Non pas que l'Assemblée va faire quelque chose pour vous, mais Dieu a promis d'y être. Et Dieu a promis de parler à son peuple. Et quand il dit quelque chose, eh bien, la chose s'accomplit. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là. Dites amen à ça. Là quoi? Là où Dieu est. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Parfois même, dans sa présence, vous n'avez même pas besoin de prier non plus. Il suffit d'être dans sa présence, parce que sa présence génère des miracles. Sa présence génère des choses merveilleuses, en tout cas selon les besoins de son peuple. La femme à la perte de sang s'était approchée de lui. Elle ne s'est pas mise à genoux pendant que Jésus passait et commençait à prier, non. Elle s'est approchée de lui. Elle a vu que Dieu était en lui. N'est-ce pas? Dans Colossiens chapitre 2, Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout. Tout. Consolation. Joie. Baume de Galate, tout ce dont vous avez besoin, car en lui habite corporellement toute la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Lorsque la tristesse vous domine, Christ peut parler à la tristesse. Il en est le chef et de toute autorité. Lorsque la douleur vous accable, Christ en est le chef. Il commande et la douleur s'atténue. Amen. Alors, donc, cette femme qui avait la perte de sang, elle avait perdu beaucoup d'argent auprès de médecins. Tout ce qu'elle avait, elle a tout donné pour sa santé. Nous devons réaliser qu'il n'y a rien de plus important que notre santé. À quoi bon d'être milliardaire si on n'a pas la santé? À quoi bon être millionnaire si on n'a pas la santé? Quand on demande à ce que quelqu'un soit béni, on demande à ce que Dieu lui donne la santé. Vous savez, les millions ne vous empêchent pas d'avoir mal au dos lorsque vous allez vous lever. Les millions ne vous empêchent pas d'avoir mal aux articulations lorsque vous marchez. Mais par contre, Dieu est au-dessus de tout ça. Il peut parler aux articulations. Il connaît très bien le fonctionnement de nos organismes. Il connaît très bien le fonctionnement de nos organes à l'intérieur. Comment fonctionne le cœur, comment fonctionne le foie, comment fonctionnent les reins. Comme disent les Écritures, ils sondent les reins, ils sondent tout cela et ils peuvent voir. Lorsque un diabète vient tout désorganiser, Dieu voit ça. Lorsque l'hypertension vient poser des problèmes cardiovasculaires, Dieu voit ça. Dieu sait qu'il y a une hypertension. Il sait mieux que votre médecin. Le médecin, il doit faire des analyses de sang, des analyses de ceci et de cela et encore. Dieu lui a permis de voir ça. Il doit vous prendre l'attention. Dieu n'a pas besoin de vous prendre l'attention. Il connaît votre tension. Il sait qu'elle est élevée. Et il connaît la bonne tension pour vous. Le médecin va vous donner une moyenne. Il va vous dire, il faut 12, 7, c'est bien. Ça, c'est la bonne tension. C'est très bien. Mais parfois, il y a des gens... Moi, il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, je crois que c'est le fiston derrière, il m'avait dit qu'il avait le vertige. Moi, je lui ai demandé, fiston, tu n'es plus aussi jeune que tu crois. Alors, tu dois maintenant commencer à voir le médecin. Et il faut quand même qu'on commence à contrôler ta tension. Il me dit, mais ma tension est bonne. Mais malgré la tension, on a quand même des vertiges. Malgré qu'il n'avait pas de tension, il avait quand même des vertiges. Oui. Il a dit, non, ma tension est bonne. Donc, c'est pas. Mais Dieu sait ce qui ne va pas. Amen. Et nous avons prié ensemble ici derrière. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Dans Luc 8, verset 43. D'abord, on va lire au verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. On l'attendait. Maintenant, il était là. Dieu est là. En lui. Ça va? Il était là. Alors, il y a quelqu'un qui s'approche parce qu'il était dans un besoin. Jaïrus. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Le Seigneur savait que chez Jaïrus, il y avait un problème. Mais tant que Jaïrus ne lui demandait pas, il ne serait pas parti avec lui. Hein? Frère Abraham dit que Jaïrus était un croyant secret. Il croyait secrètement. Le fait qu'il était croyant, que ce soit en secret ou pas, Dieu savait que c'était un croyant. Or, il y a des bénédictions pour les croyants. Tant que vous êtes croyant, il y a des bénédictions pour vous. Parfois, vous pouvez en avoir honte de l'exprimer dehors, mais lui n'aura jamais honte de vous. Il sait que vous croyez en lui. Ou peut-être on vous a intimidé si jamais vous osez croire en lui, ceci ou cela. Mais c'est... Dieu ne tient pas rigueur à Jaïrus. Il ne dit pas à Jaïrus, voilà, tu as préféré protéger ta place plutôt que me glorifier. Non, il ne lui a pas dit. Jaïrus lui dit, viens, je te supplie de venir chez moi. Jésus n'a même pas discuté, il ne lui a pas fait le moindre reproche. Et il a suivi. Vous imaginez, demander au Créateur des cieux et de la terre, lui demander de changer son itinéraire et qu'il vous suive, vous. Et il le fait. Quel est ce président qui le fera? On vous demandera de le suivre, lui, le président. Maintenant, si physiquement, vous n'avez pas le moyen de le suivre. Ouais. Mais Jésus ne discute pas. Il lui dit, viens dans ma maison. Or, dans sa maison était remplie d'incrédules. Et Jésus le savait. D'ailleurs, quand il va arriver, il va tous les mettre dehors. Maintenant, il a appelé parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien. À ce moment-là, même la maison n'a plus d'importance. Parce que la santé n'y est pas. À quoi bon avoir une belle maison et être en mauvaise santé? Finalement, pour se faire soigner, on finit par la vendre, si on a tout dépensé. La santé, elle vaut plus que l'or. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Il prenait l'argent, mais il ne savait pas, il ne pouvait pas la guérir. Lui ne prend pas votre argent. Elle s'approcha. Vous voyez, c'est la chose à faire. Approchez-vous, dit Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Oui, ils étaient nombreux. Il y en a qui le touchent et d'autres pas. Et pourtant, il était serré par la foule. Donc, il y avait plusieurs personnes qui le touchaient. Mais elle a touché d'une manière, de la manière d'une croyante. Beaucoup sont ici, lorsqu'on est dans l'assemblée, beaucoup le touchent de l'une ou l'autre manière, mais il y a certains autres qui le touchent d'une manière particulière. Et il sait que un tel, un frère, un tel, une sœur, une telle, l'a touché. Et ce frère ou cette sœur va sortir joyeuse, se réjouissant. Parfois même, se réjouissant même tellement fort Lorsque le culte est terminé, on vient vous dire, « Ah, frère François, aujourd'hui, c'était vraiment pour moi. » Ah bon, je ne le savais pas. Et c'est parfois même bizarre. Enfin, ce n'est pas bizarre, c'est comme ça, parce que c'était aussi un peu comme ça ici. C'est que le frère ou la sœur l'a touché d'une manière encore plus particulière que le prédicateur. Et vous vous dites, bien, tiens, comment est-ce que lui ou elle ressent ça, mais moi, je n'ai pas ressenti ça. Et c'est la même chose ici. Pierre était là, Pierre était à côté. Hein, c'est dedans. Il dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, ah, c'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Donc, ils sont nombreux à te toucher. Tu es pressé au milieu d'eux et te presse. Hein? Et tu dis, qui m'a touché? Et tu dis ça. Mais Jésus répondit, non, quelqu'un m'a touché de telle manière qu'une force est sortie de moi. Un cantique dit, de lui sort la vertu sainte qui guérit parfaitement. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Elle n'avait pas besoin de prier. Il suffit d'être dans sa présence. À la piscine de Bethesda, l'ange qui descendait ne priait pour aucun malade. Mais le fait de l'onction que cet ange avait sur lui faisait que l'eau s'agitait devant l'onction qu'il avait sur cet ange. L'ange n'avait pas besoin de prier pour tel malade. Il suffisait que le premier malade qui entrait dans l'eau, il suffisait qu'il y en ait un qui entre pour que toute cette force sorte, si je peux dire ainsi, toute cette onction-là se répande sur cette personne. L'ange est limité. Jésus-Christ, lui, n'était pas limité. Vous voyez ? Donc, dans Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. C'est pas... Ça veut dire maison de miséricorde, Bethesda. Beth, ça veut dire maison. Ça va? Comme Élisabeth, Élisabeth, c'est la maison du pain de Dieu. Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. L'ange, c'était de temps en temps. Mais Jéhovah Shammah, il est toujours présent. Il est ici. Quand je dis ici, ce n'est pas nécessairement 94 rue de Firlan. Ici, c'est là où se trouvent ses enfants. Ésaü ne va pas vous dire « L'Éternel est en ce lieu ». Il peut passer par le même lieu que Jacob est passé, mais il ne ressentira pas ça. Tandis que Jacob l'a ressenti. Ça va? Vous pouvez prendre la rue de Firlan, arriver là-bas au coin et vous dire, certainement, Dieu est ici. Mais les autres passeront sans rien remarquer. Gloire à Dieu. L'ange descendait de temps en temps, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Nous devons savoir, il n'y a aucune maladie qui dépasse Dieu. Aucune. Même les maladies inconnues ou les maladies de naissance, rien ne dépasse Dieu. Dieu est plus que capable. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça va? Cet homme n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Mais c'est l'approche. Nous lisons bien ici au-dessus, hein, n'est-ce pas? Au verset 3, il y avait un grand nombre de malades. Ça va? Un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils étaient plusieurs. Ils étaient nombreux. Alors, pourquoi seulement cet homme? L'approche de cet homme a été différente. Ça va? Non pas que l'homme se soit approché de lui, mais Dieu, sachant certainement sa foi, Jésus s'est approché de lui. Et pendant 38 ans, il était là, sachant qu'il n'avait aucune chance de pouvoir sauter le premier dans l'eau. Il avait une foi inébranlable. C'est sa foi qui a été récompensée. Si nous pouvons seulement le toucher par la foi, l'ange n'a prié pour personne. Sa présence n'était signalée que par l'agitation de l'eau. Et cela pouvait suffire pour guérir quelqu'un qui plongeait en premier. Mais lui, c'est la présence de Christ qui l'a guéri. L'ange, c'était une mission qu'il avait, certainement, avec la parole de Dieu, et Dieu ne renie pas sa parole. Mais on parle du serpent d'airain. Il dit, le serpent d'airain, c'était quelque chose d'inerte, qui ne bougeait pas, qui ne priait pas. Ça va? Nombre 21. Verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, c'est Ésaü. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Pourquoi? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Dieu a entendu la prière de Moïse. Mais ce n'est pas ça qui a guéri les gens. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est tout ce que vous avez à faire. Le frère parlait de ces choses aux gens qui étaient venus nombreux à la réunion, qui avaient besoin de prière. Rien que pour la ligne de prière, il y avait plus d'une centaine de cartes qui étaient données aux gens. Et il parle d'une femme, d'une jeune femme, qui a témoigné d'ailleurs dans ce message. Elle avait un problème, elle avait un souci. Le frère n'a pas dit quel souci. Quand elle est arrivée pour demander une carte de prière pour pouvoir se mettre dans la ligne de prière, il n'y en avait plus pour elle. Ça allait prendre beaucoup de temps. Vous savez, il n'a quasiment pas prêché ici. C'est très fin. C'était une réunion plus pour prier pour les gens, prier pour les malades. Alors, la dame qui distribuait, ce n'était pas Billy Paul, la dame qui distribuait les cartes, voyant la femme désolée, pleurant presque pour n'ayant pas eu la carte, lui a dit, mais, vous savez, sœur, vous n'avez pas besoin d'avoir la carte. Ce qu'il y a, quand ça commencera, vous approchez-vous seulement de lui pendant la réunion, pendant que l'onction sera là. Et la femme, Dieu la bénisse, elle a suivi le conseil. Elle s'est approchée autant qu'elle a pu. Elle était quand même à une certaine distance. Mais Dieu a vu cette femme. Et le fait que Dieu ait vu cette femme, ça a sauté tous les numéros qui étaient avant elle. Ceux qui avaient une carte de prière, eh bien, ont dû attendre que cette femme-là soit d'abord servie. Alors, ma prière a été, c'est quand j'ai lu ça, ma prière a été, c'est « Oh Seigneur, apprends-moi à m'approcher de toi. » Si une sœur l'a fait dans notre génération, c'est pas dans la Bible ça, c'est ici, elle a témoigné. Si une sœur l'a fait dans notre génération, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas aujourd'hui? Frère Branham n'y était pour rien. Il n'a rien. Il a prié pour elle, mais Dieu lui a montré, il y a quelqu'un à moi là-bas. Si ça ne tenait qu'à Frère Branham, cette femme-là n'aurait rien eu ce jour-là. Revenons à notre serpent des reins. Donc, le peuple va et dit à Moïse, verset 7, et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Tout ce qu'il fallait faire, c'était regarder le serpent des reins. Maintenant, pour le voir, ce serpent des reins naturel qui était là, il fallait s'en approcher. Si on était trop loin, on ne le voyait pas. Aussi, approchez-vous de lui. Comme Moïse, dans le désert, a élevé le serpent, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a élevé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Aujourd'hui, peut-être à cause de la foule, comme au temps de Moïse, dans la position où vous êtes, il vous est peut-être difficile de voir ce serpent d'airain qui est élevé. Mais il nous est donné la foi, cette foi, de voir Jésus-Christ élevé. Qu'il a été meurtri pour nos péchés. Et nous n'oublions pas, Ésaïe 53, toujours, on dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Et si vous pouvez voir cela, si vous pouvez seulement réaliser ça, c'est ce dont vous avez besoin. Et ça n'avait rien de hasard, de hasardeux. Les lépreux, ce sont des gens qu'on chassait. On leur disait, ne t'approche pas de moi. Ne vous approchez pas de nous. Allez au loin. On ne leur permettait même pas d'entrer dans la ville. Ils vivaient aux portes, n'est-ce pas, des villes, différentes portes. C'est là que les lépreux s'y trouvaient. Parce que très contagieux. Mais quand les lépreux ont appris qu'il était là, ils ont oublié le fait qu'on les chasse, qu'ils sont chassés partout où ils vont. Les sacrificateurs de l'époque les chassaient, vous savez. Vous ne pouviez pas vous approcher d'un sacrificateur pour qu'il prie pour vous alors que vous êtes lépreux. Essayez d'être guéri ailleurs, et puis quand vous êtes guéri, vous allez chez le sacrificateur. Mais les sacrificateurs, ils se sont un peu approchés, ils sont allés à sa rencontre, et comme ils savaient, les lépreux, comme ils savaient qu'ils étaient bannis par les gens, ils sont restés à distance. Mais Jésus dit, venez à moi. Verset 11, Luc 17, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, ouais, dix lépreux, ils étaient à la porte, dix lépreux vinrent à sa rencontre, ils sont venus à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Heureusement qu'ils avaient la foi en lui. Parce que sinon, ils auraient discuté, « Mais tu nous envoies chez les sacrificateurs, on ne peut pas y aller. » Mais ils y sont allés. « Croyez que vous l'avez reçu. » L'un d'eux, se voyant guéri, avant d'arriver chez le sacrificateur, il revient sur ses pas. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Approchez-vous de lui. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est ce que nous avons toujours appelé ici dans l'Assemblée, la bénédiction supplémentaire. Vous avez cette bénédiction supplémentaire quand vous savez exprimer votre reconnaissance à Dieu. Soyez reconnaissant. Dites-lui merci. Dites-lui merci pour la vie qu'il vous a donnée aujourd'hui. Dites-lui merci pour la vie qu'il a donnée au vôtre aujourd'hui. Dites-lui merci pour la santé qu'il vous a donnée aujourd'hui. Dites-lui merci. Et je dis merci en vous voyant. Et particulièrement, je dis merci à Dieu en voyant ma sœur qui ne savait plus marcher. Et la voilà, le mercredi soir, elle est là. C'est une grâce que Dieu nous donne. Je dis merci, nous voyons que malgré la douleur, on est là. Je dis merci à Dieu. Cela montre que Dieu agit dans les cœurs. Parce que supporter ce que on a dû supporter ces temps-ci, sans l'intervention de Dieu, je crois que cela n'aurait pas été possible. Il est merveilleux. Du temps des apôtres, on voit bien que après son ascension, Dieu ne nous a pas abandonnés. Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Il a perverti, il a envoyé le Saint-Esprit. Du temps des apôtres, il était maintenant avec eux, non seulement avec eux, mais en eux. Et ce sont ces temps-là que Dieu veut restituer aujourd'hui. Alors, à tel point que, dans Actes 5, par exemple, nous voyons que, comme les gens aiment bien souvent s'approcher de ce qu'ils voient de leurs yeux naturels, eh bien, ils s'approchaient des disciples, de ceux qui avaient été avec Jésus-Christ et de ceux qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Puisqu'il leur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Nous voyons au verset 12, beaucoup de miracles, acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en œuvre en couvre quelques-uns. L'ombre de Pierre pouvait guérir les gens. En fait, une ombre ne guérit pas. Vous pouvez aller prendre la dépouille de Pierre aujourd'hui et placer vis-à-vis du soleil pour que ça fasse ombre, ça ne vous guérira pas. Mais c'est la foi en Dieu, la foi en celui qui était avec eux, la foi en celui qui était avec le frère Branham, la foi en celui qui est avec vous et moi ce soir. Lorsque nous prions les uns pour les autres ici, nous prions les uns pour les autres et Dieu nous guérit. Il y a aussi ces mouchoirs de Paul, n'est-ce pas, qu'on appliquait sur les malades. C'est une question de foi. Parfois, certaines personnes ont besoin de quelque chose de palpable. Mais la foi n'a pas besoin de ça. La foi peut voir dans l'invisible. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous aide. Hein. Il nous donne parfois des choses de palpables à regarder. Pour cette femme-là dont je viens de parler, elle avait peut-être plus foi en la carte de prière. Mais l'autre femme lui a appris que Dieu pouvait la voir sans la carte de prière. Dieu peut vous voir aujourd'hui sans la carte de prière. Tout ce qu'elle a fait, elle s'est approchée d'un endroit où il y avait une réunion et où Dieu avait dit que dans ces réunions, il sera là. Et c'est nous aussi ce soir, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous approcher de là où il a promis qu'il serait. Et il a promis, s'il y en a deux ou trois qui sont là, je serai au milieu d'eux. Si nous croyons de tout notre cœur qu'il est là, au milieu de nous, eh bien, il est temps de lui parler. Amen. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te remercions ce soir pour cette parole, cette promesse vivante qui est toujours valable encore aujourd'hui. Que là où tu es, là où on s'assemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir, comptant sur ta présence. Et notre sœur, celle que j'appelle affectueusement ma grande sœur, elle est venue aussi demandant ce que nous puissions la remettre entre tes mains. Tu connais l'état de son cœur, tu connais les douleurs par lesquelles elle a enduré et nous te demandons de la raccompagner. alors qu'elle prendra l'avion ce samedi, que tu sois avec elle. Que tu la bénisses. Que tu bénisses le bien-aimé frère aussi, son époux, qui est rentré, qui est bien arrivé. Aimant le baume de Galate soit appliqué sur les cœurs. Et les enfants, les petits-enfants qui restent, que tu les bénisses, ainsi que leur maman. Que tu sois toujours l'hôte invisible dans leur maison. Lorsque un se sentira un peu abattu, que tu le remontes à cause de ta bonté. Telle est notre prière ce soir. Et nous aussi, lorsque nous nous assemblons, nous voyons cette place vide, nous avons besoin souvent de ton aide. Alors nous nous approchons de toi. Et toi, tu es celui qui, par les yeux de la foi, tu nous fais entrevoir ce qui nous attend. Alors, le chemin devient moins amer et nous marchons en voulant rater ce jour béni où tu viendras, tu crieras avec la voix d'un archange, où ceux qui pourront être relevés et les vivants avec eux être changés. Et nous tous, ensemble, montant à ta rencontre. Tu nous demandes, au travers de ton serviteur, de nous approcher de toi, du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous approchons de lui, connaissant notre position, qui était aussi la position de Jacob autrefois. Lorsque, dans sa fuite, il est passé en un certain lieu, il a constaté que Dieu était avec lui. Oh, ici, il ne s'agit pas de fuite, mais il s'agit d'un voyage. Que tu nous fasses réaliser que notre sœur part avec toi et qu'elle-même le réalise aussi et que cela nous apaisera, sachant qu'il n'y a personne de mieux que toi qui peut consoler son cœur, ô Dieu, ainsi que le cœur des petits-enfants, ô Dieu, le cœur de leur maman, le cœur des frères et des sœurs de l'Assemblée. Te bénissons. Te louons. Si tu tardes à venir, nous avons encore des rassemblements cette semaine et nous voulons que tu nous aides à nous préparer avec des cœurs préparés à la prière, préparés à te parler. Au nom tout suffisant, tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.